France Inter. Les admirations littéraires de
François Sureau.
Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, en ce morne horizon se sont évanouis.
Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Victor Hugo et je ne vais pas me donner le ridicule de vous le présenter.
Victor Hugo, le plus grand poète de tous les temps.
Pierre Desproges.
L'élévation de sa pensée et la grandiose majesté de ses alexandrins ont plus fait pour le prestige de la France que le camembert qui supporte d'ailleurs moins bien le voyage.
Son nom suscite des jugements idiots, comme le Victor Hugo hélas de Gide, le Hugo n'a rien de chrétien de Charles Péguy, et le moins profond de nos poètes pour Kléber et Dins, toujours égaré quant à lui par la passion politique. Baudelaire trouvait lamentable les chansons des rues et des bois, je les trouve admirables et je ne suis pas le seul. Chacun a son Hugo, vous comme moi.
Ouais, t'es bonne pour 6 mois, allez, emmène-la.
6 mois de prison, c'est pas possible, j'ai la pension de ma petite fille à payer. Ma petite Cosette, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Ils vont la mettre dehors en plein hiver.
Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Oh, si je fais ce métier-là, c'est pas par vice, je vous jure.
Toutes les putains disent ça.
Cet incident est un fait de police municipale, je suis votre supérieur et je vous demande d'en lâcher cette femme.
Je suis au regret.
Je vous ordonne d'obéir.
Le mien, c'est le père de France, classé à droite, qui parcourt les rues de Paris et vient en aide aux filles perdues. L'exilé de Guernsey, qui répond à la proposition d'amnistie de Napoléon III, « J'ai choisi de partager l'exil de la liberté. Lorsque la liberté rentrera, je rentrerai. » Le vieil homme, qui revenu en France, au moment de la défaite de 1870, croise les soldats battus et crie de la fenêtre de son train « Vive la France, vive l'armée française !» Mais les soldats ne reconnaissent pas ce vieillard qui pleure. On n'a pas souvent reconnu Victor Hugo. La droite en a toujours voulu au comte Hugo, père de France, d'avoir déserté ses rangs. La gauche s'est toujours fâchée que le défenseur des pauvres et des ouvriers n'appartint pas à sa chapelle. Il a désapprouvé la commune, mais il a désapprouvé aussi la répression des communards. Le peuple, comme on dit, ne s'y est quant à lui jamais trompé. Il y a là-dessus une anecdote qui m'émeut beaucoup. Après 1871, revenu à Paris, il revient siéger à l'Académie française. Il n'y est pas venu depuis 20 ans pour cause d'exil. Personne dans cette institution ne le reconnaît. Et le directeur oublie son nom au moment de faire l'appel des membres. Mais quand il sort dans la grande cour pour s'en aller, des gens qui passent soulèvent en silence leur chapeau en le voyant.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
La vie ne l'aura pas épargné, et les gens simples s'y connaissent. Mort de sa fille Léopoldine à Villequier, mort de son fils Charles. Après la mort de sa fille, il est resté longtemps sans rien écrire.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs.
Il ne pouvait penser qu'à la mort. Il se portait volontaire à l'Académie pour prononcer l'éloge funèbre de chacun de ses confrères disparaissants, même s'il ne les aimait pas. Et puis à la fin, cette œuvre qu'on n'ose même plus qualifier d'immense, Les Misérables, un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle, et puis 93, sommet du livre politique, et ses poèmes qu'il a appris à l'école, nous font encore frissonner 50 ans après. C'est cela que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Après la bataille, mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié, et qui disait « À boire! À boire! Par pitié !» Mon père, ému, tendit à son housard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » Tout à coup, au moment où le housard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba, que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » a dit mon père. L'extrait suivant est l'extraordinaire portrait de Simourdin dans 93. Simourdin est un ancien prêtre devenu révolutionnaire. On lui avait refusé une famille, il avait adopté la patrie. On lui avait refusé une femme, il avait épousé l'humanité. Cette plénitude énorme, au fond, c'est le vide. Ses parents, paysans, en le faisant prêtre, avait voulu le faire sortir du peuple, il était rentré dans le peuple. Et il y était rentré passionnément. Il regardait les souffrants avec une tendresse redoutable. De prêtre, il était devenu philosophe, et de philosophe, athlète. Louis XV vivait encore que déjà Simourdin se sentait vaguement républicain. De quelle république? De la république de Platon, peut-être. Et peut-être aussi de la république de Dracon. Défense lui étant faite d'aimer, il s'était mis à haïr. Il haïssait les mensonges, la monarchie, la théocratie, son habit de prêtre. Il haïssait le présent. Et il appelait à grands cris l'avenir. Il le pressentait, il l'entrevoyait d'avance, il le devinait effrayant et magnifique. Il comprenait, pour le dénouement de la lamentable misère humaine, quelque chose comme un vengeur qui serait un libérateur. Il adorait de loin la catastrophe.
Le peuple ne veut pas de la régence, il veut la République! Ouais !
En 1789, cette catastrophe était arrivée et l'avait trouvé prêt. Simourdin s'était jeté dans ce vaste renouvellement humain avec logique, c'est-à-dire, pour un esprit de sa trempe, inexorablement, la logique ne s'attendrit pas. Il avait vécu les grandes années révolutionnaires et avait eu le tressaillement de tous ses souffles. 89, la chute de la Bastille, la fin du supplice des peuples. 90, le 4 août, la fin de la féodalité. 91, Varennes, la fin de la royauté. 92, l'avènement de la République. Il avait vu se lever la Révolution. Il n'était pas homme à avoir peur de cette géante. Loin de là, cette croissance de tout l'avait vivifié. Et quoique déjà presque vieux, il avait 50 ans, et un prêtre est plus vite vieux qu'un autre homme, il s'était mis à croître, lui aussi. D'année en année, il avait regardé les événements grandir et il avait grandi comme eux. Il avait craint d'abord que la Révolution n'avortât. Il l'observait, elle avait la raison et le droit. Il exigeait qu'elle eût aussi le succès. Et à mesure qu'elle effrayait, il se sentait rassuré. Il voulait que cette Minerve, couronnée des étoiles de l'avenir, fût aussi Pallas et eût pour bouclier le masque au serpent. Il voulait que son œil divin pût au besoin jeter aux démons la lueur infernale et leur rendre terreur pour terreur.
La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargé d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars.
À présent, tiré du même livre de 93, le récit hanté et envoûtant du vote pour la mort du roi Louis XVI.
Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense?
Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille.
On se montrait le repli du couloir de gauche, où Robespierre avait dit, bas, à l'oreille de Garat, l'ami de Clavière, ce mot redoutable, « Clavière a conspiré partout où il a respiré ». Dans ce même recoin, commode aux apartés et aux colères à demi-voix, Fabre d'Églantine avait querellé Rome et lui avait reproché de défigurer son calendrier par le changement de Fervidor en Thermidor. On se montrait l'angle où siégeaient, se touchant le coude, les sept représentants de la Haute-Garonne, qui, appelés les premiers à prononcer leur verdict sur Louis XVI, avaient répondu ainsi, l'un après l'autre. Maille, la mort. Delmas, la mort. Projan, la mort. Calès, la mort. Héral, la mort. Julien, la mort. De Saby, la mort. Éternelle répercussion qui emplit toute l'histoire et qui, depuis que la justice humaine existe, a toujours mis l'écho du sépulcre sur le mur du tribunal. On désignait du doigt, dans la tumultueuse mêlée des visages, tous ces hommes, d'où était sorti le brouhaha des votes tragiques. Paganel qui avait dit « La mort, un roi n'est utile que par sa mort ». Millot qui avait dit « Aujourd'hui, si la mort n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Le vieux Raffron du Trouillet qui avait dit « La mort, vite !» Goupillot qui avait crié « L'échafaud, tout de suite !» La lenteur aggrave la mort. Sieyès, qui avait eu cette concision funèbre, la mort. Turiot, qui avait rejeté l'appel au peuple proposé par Buzot. Quoi ? Les assemblées primaires ? Quoi ? 44 000 tribunaux ? Procès sans terme ? La tête de Louis XVI aurait le temps de blanchir avant de tomber ? Augustin Bon de Robespierre, qui après son frère s'était écrié « Je ne connais point l'humanité qui égorge les peuples et qui pardonne aux despotes. La mort ! Demander un sursis, c'est substituer à l'appel du peuple un appel au tyran. » Fousse-Noir, le remplaçant de Bernardin de Saint-Pierre, qui avait dit « J'ai en horreur l'effusion du sang humain, mais le sang d'un roi n'est pas le sang d'un homme. » La mort. Jean Bon-Saint-André, qui avait dit « Pas de peuple libre sans le tyran mort. » La Vicomtrie, qui avait proclamé cette formule « Tant que le tyran respire, la liberté étouffe. » La mort.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
François et Victoire Sureau lisent des textes de Victor Hugo.
À l'ordre du jour, l'examen du projet de loi d'assistance et de prévoyance sociale. Monsieur Victor Hugo a demandé à parler en premier.
Messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère.
Et maintenant, vous allez entendre un des passages les plus extraordinaires des Misérables, qui se place au début du livre et où Jean Valjean, forçat libéré du bagne de Toulon, titulaire d'un passeport jaune et qui, pour cette raison, ne trouve pas de travail nulle part et se fait jeter des cailloux par tout le monde, est hébergé par l'évêque de Digne, qu'il prend d'ailleurs pour un simple curé, Monseigneur Bienvenu Myriel, que les habitants appellent Bienvenu.
Entrez, dit l'évêque. La porte s'ouvrit, un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il, ce n'est donc pas le curé ?» « Silence !» dit un gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque !» Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approché, aussi vivement que son grand âge lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il, en regardant Jean Valjean.
Je suis bien aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez avoir bien 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ? Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda l'évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier, ce que cet homme disait était donc vrai ? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va, nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie. Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de curé chez qui il avait passé la nuit. Je vois la chose, et vous l'avez ramené ici, c'est une méprise. Ainsi, fit le brigadier, nous pouvons le laisser partir ? Sans doute, reprit l'évêque. » Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ? » dit-il d'une voix inarticulée et comme s'il parlait en dormant. « Mon ami, reprit l'évêque, avant de partir, voici vos chandeliers, prenez-les. » Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. » Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque reprit avec solennité, « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. »
Voici maintenant, pour illustrer la variété du génie de Victor Hugo, l'un de ses poèmes politiques qui ne sont pas évidemment les meilleurs poèmes qu'il ait fait, ni même parmi les plus beaux poèmes de la langue française, mais qui donne la mesure de son énergie, de sa fureur, qui est un poème qui date du temps de l'exil, et où il voit que la France est tombée aux mains véritablement d'une bande, pour lui, de malfrats organisés autour de Napoléon III, et qui prostitue le souvenir des libertés, le souvenir du Premier Empire, l'idée même de religion, et également les intérêts et le bien-être du peuple. L'un de ces personnages fâcheux s'appelle Saint Arnaud, et il écrit à propos de lui dans Les Châtiments sévères, terribles. « Cet homme avait donné naguère un coup de main au recul de la France et de l'esprit humain. Ce général avait les états de service d'un chacal, et le crime aimait en lui le vice. Buffon l'eût admis certes au rang des carnassiers. » Il avait fait charger le 7e lancier, secouant les guidons aux trois couleurs françaises sur des bonnes d'enfants, derrière un tas de chaises. Il était le vainqueur des passants de Paris. Il avait mitraillé les cigares surpris, ébroyé Tortoni fumant à coups de foudre, fier, le tonnerre au poing. Il avait mis en poudre un marchand de coco près des variétés, avec 15 escadrons, bien armés, bien montés, et 30 bataillons, et 20 pièces de 12, il avait pris d'assaut le perron Salandrouz. Il avait même réussi, en fort peu de temps, à tuer sur sa porte un enfant de 7 ans. Et sa gloire planait dans l'ouragan qui tonne, de l'égout poissonnière au ruisseau Ticotone. Tout cela l'avait fait maréchal. Nous aussi, nous étions des vaincus. Je dois le dire ici, nous étions 1200. Eux, ils étaient 100 000.
Mais d'où sort-elle, cette Esmeralda ?
D'Égypte. Elle ose parfois venir danser sur le parvis. J'ai demandé qu'on la chasse, mais vainement. Une bien redoutable créature.
Écartez-vous, écartez-vous, là !
Oh, Quasimodo, Saint-Père des fous, veille sur nous !
Et remercie les cloches de t'avoir rendu sourd !
Sourd comme un chaudron !
Sourd comme un verrou !
Pape des sourds, prête l'oreille à nos prières !
Et puis, à présent, dans Notre-Dame de Paris, cet extraordinaire portrait de Paris.
Toutefois, si admirable que vous semble le Paris d'à présent, refaites le Paris du XVe siècle. Reconstruisez-le dans votre pensée. Regardez le jour, à travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers. Répandez, au milieu de l'immense ville, déchirez à la pointe des îles, plissez aux arches des ponts la Seine, avec ses larges flaques vertes et jaunes, plus changeantes qu'une robe de serpent. Détachez nettement sur un horizon d'azur le profil gothique de ce vieux Paris. Faites-en flotter le contour dans une brume d'hiver qui s'accroche à ses nombreuses cheminées. Noyez-le dans une nuit profonde et regarder le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce sombre labyrinthe d'édifices. Jetez-y un rayon de lune qui le dessine vaguement et fasse sortir du brouillard les grandes têtes des tours. Ou reprenez cette noire silhouette, ravivez d'ombre les mille angles aigus des flèches et des pignons et faites-la saillir, plus dentelée qu'une mâchoire de requin, sur le ciel de cuivre du couchant. Et puis, comparez. Et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait plus vous donner, montez un matin de grande fête, au soleil levant de Pâques ou de la Pentecôte, montez sur quelques points élevés d'où vous dominiez la capitale entière et assistez à l'éveil des carillons. Voyez, à un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui le donne, ces 1000 églises tressaillir à la fois. Ce sont d'abord des tintements épars, allant d'une église à l'autre, comme quand des musiciens s'avertissent qu'on va commencer. Puis tout à coup, voyez, car il semble qu'en certains instants l'oreille aussi a sa vue, voyez s'élever au même moment, de chaque clocher, comme une colonne de bruit, comme une fumée d'harmonie. D'abord, la vibration de chaque cloche monte droite, pure, et pour ainsi dire, isolée des autres, dans le ciel splendide du matin. Puis, peu à peu, en grossissant, elles se fondent, elles se mêlent, elles s'effacent l'une dans l'autre, elles s'amalgament dans un magnifique concert. Ce n'est plus qu'une masse de vibrations sonores qui se dégage sans cesse des innombrables clochers, qui flottent, ondulent, bondissent, tourbillonnent sur la ville et prolongent, bien au-delà de l'horizon, le cercle assourdissant de ces oscillations. Cependant, cette mer d'harmonie n'est point un chaos. Si grosse et si profonde qu'elle soit, elle n'a point perdu sa transparence. Vous y voyez serpenter à part chaque groupe de notes qui s'échappe des sonneries. Vous y pouvez suivre le dialogue, tour à tour grave et criard, de la crécelle et du bourdon. Vous y voyez sauter les octaves d'un clocher à l'autre. Vous les regardez s'élancer, ailées, légères et sifflantes, de la cloche d'argent. Tombées, cassées et boiteuses de la cloche de bois. Vous admirez au milieu d'elles la riche gamme qui descend et remonte sans cesse, les 7 cloches de Saint-Eustache. Vous voyez courir tout au travers des notes claires et rapides qui font 3 ou 4 zigzags lumineux et s'évanouissent comme des éclairs. Là-bas, c'est l'abbaye de Saint-Martin, chanteuse aigre et fêlée. Ici, la voix sinistre et bourrue de la Bastille. À l'autre bout, la grosse tour du Louvre, avec sa basse-taille. Le royal carillon du palais jette sans relâche de tous côtés des trilles resplendissants, sur lesquels tombent à temps égaux les lourdes couppetées du beffroi de Notre-Dame, qui les font étinceler comme l'enclume sous le marteau. Par intervalles, vous voyez passer des sons de toutes formes, qui viennent de la triple volée de Saint-Germain-des-Prés. Puis encore, de temps en temps, cette masse de bruit sublime s'entr'ouvre et donne passage à la strette de l'Ave Maria, qui éclate et pétille comme une aigrette d'étoiles.
Gasti Belzalom à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Doña Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille homograbine d'Antecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir, elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe. Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
François et Victoire Sureau lisent des textes de Victor Hugo.
Quand il était jeune écrivain et qu'il voulait faire son chemin dans le monde, Victor Hugo s'était fixé comme programme être Chateaubriand ou rien. On comprend évidemment que la mort de Chateaubriand en juillet 1848 l'ait frappé, et il en a raconté les détails dans la première série de choses vues. Monsieur de Chateaubriand est mort le 4 juillet 1848, à 8h du matin. Il était depuis 5 ou 6 mois atteint d'une paralysie qui avait presque éteint le cerveau, et depuis 5 jours, d'une fluxion de poitrine qui éteignit brusquement la vie. La nouvelle parvint par Monsieur Ampère à l'Académie, qui décidera qu'elle ne tiendrait pas de séance. Je quittais l'Assemblée nationale où l'on nommait un questeur en remplacement du général Négrier, tué dans les journées de juin, et j'allais chez Monsieur de Chateaubriand, rue du Bac, 110. On m'introduit près du gendre de son neveu, Monsieur de Preuil. J'entrais dans la chambre de Monsieur de Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand était couché sur son lit, petit lit en fer à rideaux blancs avec une couronne de fer d'assez mauvais goût. La face était découverte, le front, le nez, les yeux fermés, apparaissaient avec cette expression de noblesse qu'il avait pendant la vie et à laquelle se mêlait la grave majesté de la mort. La bouche et le menton étaient cachés par un mouchoir de batiste. Il était coiffé d'un bonnet de coton blanc qui laissait voir les cheveux gris sur les tempes, une cravate blanche lui montait jusqu'aux oreilles. Son visage basané semblait plus sévère au milieu de toute cette blancheur. Sous le drap, on distinguait sa poitrine affaissée et étroite et ses jambes amaigries. Les volets des fenêtres donnant sur un jardin étaient fermés. Un peu de jour venait par la porte du salon entrouverte. La chambre et le visage du mort étaient éclairés par 4 cierges qui brûlaient au coin d'une table placée près du lit. Sur cette table, un crucifix en argent et un vase plein d'eau bénite avec un goupillon. Un prêtre priait à côté. Derrière le prêtre, un haut paravent de couleur brune cachait la cheminée dont on voyait la glace et laissait voir à demi quelques gravures d'église et de cathédrale. Au pied de M. de Chateaubriand, dans l'angle que faisait le lit avec le mur de la chambre, il y avait 2 caisses de bois blanc posées l'une sur l'autre. La plus grande contenait le manuscrit complet de ses mémoires, divisé en 48 cahiers. Sur les derniers temps, il y avait un tel désordre autour de lui qu'un de ses cahiers avait été retrouvé le matin même par M. de Preuil dans un petit coin sale et noir où l'on nettoyait les lampes. Quelques tables, une armoire et quelques fauteuils bleus et verts en désordre encombraient plus qu'ils ne meublaient cette chambre. Le salon voisin, dont les meubles étaient cachés par des housses de toile écrue, n'avait rien de remarquable qu'un buste en marbre de Henri V posé sur la cheminée. En avant de ce buste, une statuette de M. de Chateaubriand en pied, des deux côtés d'une fenêtre, Madame de Berry et son fils enfant en plâtre. M. de Chateaubriand ne disait rien de la République. Sinon, cela vous fera-t-il plus heureux ? Les obsèques de M. de Chateaubriand se firent le 8 juillet 1848, précisément au jour anniversaire de cette seconde rentrée de Louis XVIII en 1815, à laquelle il avait puissamment contribué. Je dis les obsèques et non l'enterrement, car M. de Chateaubriand avait depuis longtemps son tombeau bâti d'avance à Saint-Malo, sur un rocher au milieu de la mer. Paris était comme abruti par les journées de juin, et tout ce bruit de fusillades, de canons et de tocsins qu'il avait encore dans les oreilles l'empêcha d'entendre, à la mort de M. de Chateaubriand, cette espèce de silence qui se fait autour des grands hommes disparus. Et puis, c'était le 3e enterrement depuis 3 jours, la veille l'archevêque, l'avant-veille les victimes de juin. Il y eut peu de foule et une émotion médiocre aux obsèques de M. de Chateaubriand. La cérémonie se fit à la chapelle-église des Missions étrangères, rue du Bac, à quelques pas de la maison que M. de Chateaubriand habitait. L'église des Missions, étroite, petite, laide, tendue de noir à mi-mur. Au milieu de l'église, un cénotaphe de bois couleur bronze surmonté d'un drap de velours noir à croix blanche, semé d'étoiles d'argent. Aux 4 coins du cénotaphe, 4 candélabres de bois bronzé et argenté portant une flammèche verte qui s'éteignit avant la fin. 2 rangées de cierges sur les 2 grilles du catafalque, aucun insigne. Pour toute famille, des collatéraux, quelques centaines de personnes, cousins en noir, Ampère avec l'habit de l'Institut, Villemain avec la plaque, M. Mollet en redingote, 7 femmes dans les tribunes hautes, un peu de peuple, sous l'orgue, l'évêque de Quimper dans le chœur, quatre fusillés auprès de l'autel, une trentaine de soldats du 61e dans l'église, commandés par un capitaine, deux membres de l'Assemblée nationale en écharpe, presque tout l'institut. La messe chantée en faux bourdon, deux séminaristes d'émission regardant à droite de l'autel de derrière une statue, M. Anthony Touret tenant un des quatre coins du poêle, M. Patin faisant un discours. Telle fut cette cérémonie qui eut tout ensemble je ne sais quoi de pompeux qui excluait la simplicité et je ne sais quoi de bourgeois qui excluait la grandeur. C'était trop et trop peu. J'eusse voulu, pour M. de Chateaubriand, des funérailles royales, Notre-Dame, le manteau de père, l'habit de l'Institut, l'épée du gentilhomme émigré, le collier de l'ordre, la toison d'or, tous les corps présents, la moitié de la garnison sur pied, les tambours drapés, le canon de 5 en 5 minutes, ou le corbillard du pauvre, dans une église de campagne.
Vous devriez vous réjouir de l'issue de cette révolution. Au lieu de cela, vous ne pensez qu'à vous replonger dans la guerre. Enfin, aujourd'hui, vous allez voter, et c'est par votre vote que
on
vous pourrez élire...
On veut voter, on s'est battu pour ça, et on continuera.
Ouais. On sait qui vous êtes, monsieur Hugo. Vous êtes un royaliste. Vous n'avez rien à faire ici.
Voilà, exactement.
Ah bien, alors c'est ça, votre idée de la démocratie ? Ben, voyez-vous, moi, j'ai beau être royaliste, je défends la liberté.
Et puis, il y a le Victor Hugo qui, dans les derniers jours d'un condamné, se prononce contre la peine de mort, le Victor Hugo, défenseur de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Et par exemple, le 11 octobre 1848, à l'Assemblée nationale, quand il s'exprime en faveur de la liberté. Ce qu'il faut en ce moment aux esprits divisés, incertains de tout, inquiets de tout, c'est un grand exemple en haut. C'est dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, la grande et fière pratique de la justice et de la vérité. Monsieur le ministre de la Justice invoquait tout à l'heure l'argument de la nécessité. Je prends la liberté de lui faire observer que la nécessité est l'argument des mauvaises politiques. Que dans tous les temps, sous tous les régimes, les hommes d'État, condamnés par une insuffisance qui ne venait pas d'eux quelquefois, qui venait des circonstances même, se sont appuyés sur cet argument de la nécessité. Nous avons entendu déjà, et souvent, sous le régime antérieur, les gouvernants faire appel à l'arbitraire, au despotisme, aux suspensions de journaux, aux incarcérations d'écrivains. Messieurs, prenez garde, vous faites respirer à la République le même air que la monarchie. Souvenez-vous que la monarchie en est morte, et je ne dirai plus qu'un mot. L'Assemblée me rendra cette justice que des interruptions systématiques ne m'ont pas empêché de protester jusqu'au bout en faveur de la liberté de la presse. Messieurs, des temps inconnus s'approchent. Préparons-nous à les recevoir avec toutes les ressources réunies de l'État, du peuple, de l'intelligence, de la civilisation française et de la bonne conscience des gouvernants. Toutes les libertés sont des forces. Ne nous laissons pas plus dépouiller de nos libertés que nous ne nous laisserions dépouiller de nos armes la veille du combat. Prenons garde aux exemples que nous donnons. Les exemples que nous donnons sont inévitablement plus tard nos ennemis ou nos auxiliaires. Au jour du danger, ils se lèvent et ils combattent pour nous ou contre nous. Quant à moi, si le secret de mes votes valait la peine d'être expliqué, je vous dirais, j'ai voté l'autre jour contre la peine de mort. Je vote aujourd'hui pour la liberté. Nous avons commencé ce voyage en compagnie de Victor Hugo par un souvenir filial, et voici maintenant un autre type de souvenir.
Jeanne était au Pain Sec, dans le cabinet noir, pour un crime quelconque. Et manquant au devoir, j'allais voir la proscrite, en pleine forfaiture, et lui glissait dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société s'indignèrent. Et Jeanne a dit d'une voix douce « Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce. Je ne me ferai plus griffer par le minet. » Mais on s'est récrié. « Cette enfant vous connaît. Elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. » Le pouvoir se détend, plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête, vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête. Et j'ai dit, je n'ai rien à répondre à cela, j'ai tort. Oui, c'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Qu'on me mette au Pain Sec. Vous le méritez, certes, on vous y mettra. Jeanne, alors dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, plein de l'autorité des douces créatures, Eh bien moi, je t'irai porter des confitures.
Les admirations littéraires de François Sureau. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Elle a été préparée par Perrine Malinge. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Julien Chabassu et le mixage par Guillaume Ledu. La semaine prochaine, François et Victoire Sureau liront des textes de Mérimée.